enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'était la semaine de prévention du suicide. Et j'ai presque peur que cette semaine extraordinairement importante s'est perdue dans le tourbillon de tout le reste, des lignes ouvertes, de la télé. Il y a eu plusieurs articles et quelques émissions. Mais en cette semaine de prévention du suicide, nous voulons... Mon message ce matin, c'est la réponse de Dieu au suicide. C'est assez courant, fréquent que nous regardons la parole de Dieu à la lumière de... Regardons l'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Et toute la semaine, il y a des statistiques hallucinantes qui nous ont été rappelées aux quatre coins des médias. Et j'en ai tiré quelques-unes, tirées de sources comme La Presse, Suicide Action Montréal, Le Devoir, l'Association québécoise de prévention du suicide qui nous a dit, par exemple, toutes ces sources disent que chaque jour, le suicide fait 4 victimes, 1400 personnes par année. Il faut que vous arrêtiez un instant à réfléchir que ce matin, 11h15, entre hier matin et ce matin, entre samedi et dimanche, on a fait nos journées un 24 heures dans notre vie. Vous êtes levé peut-être un peu plus tard. Hier matin, si vous êtes comme mon épouse et moi, des parents de joueurs de hockey, vous étiez debout à 5 heures hier matin parce qu'il y avait une pratique à 6h30 hier matin. Mais vous avez fait votre journée et puis a été faire l'épicerie hier soir, un bon souper, regarder le Canadien, etc., coucher. Et là, on s'est préparé, on est venu à l'église ce matin. Mais dans la province de Québec, dans les dernières 24 heures, il y a des centaines de personnes qui sont au désespoir et tellement au désespoir qu'à toutes les 24 heures, il y en a 4 d'entre eux qui disent « je suis plus capable ». Je peux pas aller plus loin, je peux pas. Faut que je fasse cesser cette douleur à l'intérieur de moi et qu'à quelque part s'enlève la vie. Les experts estiment à plus de 3000 le nombre véritable de suicides officiels et non répertoriés. Parce qu'il y a ces suicides qui sont officiellement déclarés, mais il y en a plusieurs autres, que ce soit quelqu'un qui se suicide avec sa voiture, sur la route ou toutes sortes d'autres façons. On estime à plus de 3000 à chaque année, officielles et non répertoriées. Et les tentatives de suicide seraient de 10 à 30 fois plus élevées que le nombre de suicides. Stéphane Laporte, ce matin, dans la presse, fait paraître une lettre qu'il a reçue d'une médecin. Ce qui me terrorise lorsqu'on regarde les statistiques de suicide, c'est justement que nous sommes tellement désensibilisés, les statistiques passent, 1400, 3000, 10 fois plus qui font des tentatives, etc., et elles peuvent ne rester que ça, des statistiques. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu, nous avons besoin de cette sensibilité divine qui touche nos cœurs aujourd'hui pour s'arrêter. C'est impossible presque humainement, c'est un mode de mécanisme de défense d'essayer de se désensibiliser à tout ça. Mais simplement la réalisation que chaque statistique est une personne avec une famille autour. La lettre est saisissante dans la presse aujourd'hui. C'est une médecin, une urgentologue, une médecin qui est à l'urgence et qui écrit à Stéphane Laporte, et il paraît son... Et ça, c'était dans la presse de ce matin. Mercredi matin, ça s'appelle « Accident domestique ». Mercredi matin, j'ouvre ma boîte de courriel, c'est Stéphane Laporte qui écrit. « Tiens, un envoi d'une lectrice qui avait l'habitude de m'écrire régulièrement. Allô, ça fait longtemps. La vie passe vite, vous écrivez toujours aussi bien, merci, voilà. C'est la semaine de prévention du suicide. Je regarde et je lis, c'est la médecin qui parle. Je regarde et je lis tous ces textes un peu fleur bleue sur le sujet, et je voulais donner l'image de ce qui se passe de l'intérieur, quand les suicidés arrivent à l'urgence. Je ne sais pas à qui envoyer ce texte. Je ne sais pas s'il vaut la peine d'être publié. Je ne crois pas avoir le don de la plume. Mais vous saurez quoi en faire. À bientôt. Marianne Archambault. Et voici son texte. Elle dit « Je suis médecin, un petit médecin de rien du tout, qui soignote comme on bécote à gauche, à droite, selon les ordres. Un petit médecin qui peut paraître grand et savant, mais qui tremble tout autant. Un petit médecin bien trop souvent impuissant, un petit médecin vacillant. On m'annonce une urgence, une dame dans la quarantaine qui a ingurgité un demi-gallon d'eau de Javel. Un accident domestique. Pas question d'attendre à demain, je suis obligé de la voir avant qu'elle ne se perfore l'œsophage et ne meure noyée dans son sang. Mais je n'ai plus d'énergie, ni de réserve ou de retenue sur mes pensées. Et une suicidée ne m'allège pas du tout. Surtout quand il s'agit d'une suicidée sans talent. Faut le faire quand même. 9 tentatives de suicide, toutes échouées. La dernière datant d'à peine un mois. Dans l'article au complet, cette dame qui parle ici avec cette franchise brutale montre un cœur extraordinaire. Elle parle, c'est ses tripes qu'elle écrit. Et elle continue en disant, j'ai beau me concentrer sur les questions purement médicales, mon esprit est infiltré de questions idiotes qui percent mon discours intérieur et qui me distraient. Avez-vous bu ça au goulot ou l'avez-vous versé dans un verre? Est-ce que c'était de l'eau de Javex ou de la Parisienne? Est-ce qu'elle était en solde cette semaine? Comment se fait-il que vous ayez passé 3 jours sans boire et sans manger? Avec ce poison qui vous rongeait les entrailles avant de venir nous voir à l'urgence. Pourquoi au juste êtes-vous venu? Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on vous remette sur pied pour que vous puissiez préparer votre 11e tentative de suicide? Qu'est-ce que ce sera cette fois? Du lave-vite, du vitriol, du cyanure? C'est dans cet état d'esprit que j'aborde la dame. Mais la regarder gisant sur la civière ne peut que m'attendrir. Son corps émacié est agité de tremblements comme des sanglots sur la bouche. Sa bouche fait saillie sur son visage, comme celle des poupées gonflables vendues tel un trottoir au printemps après un hiver de sel, de sable et de glace. Mais ce sont ses yeux qui m'attaquent le plus. Ses yeux qui semblent dire que plus rien ne peut l'atteindre, que personne ne peut l'aider, personne. Ses yeux me traversent et lisent en moi toute mon impuissance. Je m'astreins à mon examen physique et aux questions de routine, mais je reviens sans cesse à des questions plus intimes. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous capable de mettre des mots sur votre souffrance? Êtes-vous capable de mettre un terme à cette automutilation autrement que par la cécité d'être? Mais elle ne répond pas. Peut-être que les cordes vocales nécessaires pour ce genre de réponse ont été pulvérisées avec le reste, ou peut-être parce qu'il n'y a tout simplement pas de réponse. Les statistiques, c'est des personnes, c'est des individus. Et à l'échelle mondiale, le Québec occupe le 3e rang pour le suicide, mais le 1er rang, le plus haut taux de suicide adolescent dans le monde entier. L'organisme Suicide Action reçoit 20 000 appels par année, dont 80 % sont des personnes suicidaires. Un Québécois sur 10 affirme avoir déjà songé sérieusement au suicide. 600 000 personnes y pensent. Lorsqu'on parle d'un Québécois, un Québécois sur 10, une personne sur 10, c'est des milliers de personnes qui vont écouter ce message sur Internet et tendrement, mais simplement. Je dois constater que ça peut être des centaines, 300, 400 personnes qui sont assises dans ce lieu ce matin. Un Québécois sur 10. La première cause de décès chez les adolescents de 15 à 19 ans, les hommes de 18 à 40 ans. C'est en augmentation le suicide de façon alarmante chez les femmes et les personnes âgées. 35 % des Québécois connaissent quelqu'un dans leur entourage qui s'est suicidé. Et dans ce lieu ce matin, il y a non seulement des gens peut-être qui combattent même avec des pensées, mais il y a toutes sortes de victimes eux-mêmes et elles-mêmes qui portent des poids à cause que quelqu'un près de vous s'est enlevé la vie. Ou vous êtes tourmenté par quelqu'un près de vous que vous savez à ses pensées. Des dizaines de milliers de personnes qui conservent de grandes séquelles d'une tentative de suicide ou du suicide d'un proche. À tous les jours au Québec, entre hier et ce matin, entre aujourd'hui et demain, 4 personnes se suicident. 40 à 100 personnes font une tentative. 20 personnes sont hospitalisées pour une cause reliée directement au suicide. 600 000 Québécois ont des pensées suicidaires. Un adolescent sur 6 a des pensées de suicide. À tous les dimanches, nous avons des classes pour les ados. Le vendredi soir, toute la semaine, il y a une pastorale et des activités pour eux. Mais ce matin, j'ai demandé qu'ils soient assis avec nous. Et j'aimerais demander à toute la grande assemblée de donner une main de bienvenue à nos ados qui sont avec nous ce matin. Quelques centaines d'entre eux. Les statistiques concernant le suicide augmentent. 400% plus de suicides au Québec dans les derniers 15 ans. Le docteur Alain Lesage, qui est professeur au département de psychiatrie et chercheur au centre de recherche Fernand Séguin, dit « Il y a 40 ans, le Québec avait le plus faible taux de suicide au Canada. Et la génétique n'a pas changé, observe-t-il. La cause de l'augmentation lui paraît être sans les changements socioculturels. La religion n'a plus d'effets préventifs. Les jeunes générations sont souvent face à un mur, contrairement aux années 60, où tout semblait possible. » Quelqu'un pourrait se demander pourquoi un pasteur adresserait-il ce message? Pourquoi l'Église parlerait-il? À chaque fois qu'on adresse un message comme celui-ci, ils ne peuvent pas à chaque fois, mais il va m'arriver de recevoir un courriel de dire « Comment ça se fait que vous parlez de ça à l'Église? » Je suis surpris d'entendre l'Église parler de choses d'actualité. La Bible n'a aucun, il n'y a aucune part dans la Bible pour une église recroquevillée sur elle-même, une église en position fœtale ou recroquevillée sur elle-même qui ferme les portes et qui met les rideaux dans les vitres et qui chante des chansons à l'intérieur et qui ne veut pas être au courant de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. La pensée de Dieu pour l'église, c'est que nous sommes là, bien là, dans notre monde. Les gens qui sont ici vivent les choses que tout le monde vit et s'il y a quoi que ce soit, l'église est appelée à réfléchir, à penser et à regarder au message biblique et à offrir un message d'espoir. La Bible nous dit déjà, il y a des avertissements très, très sévères pour nous et des avertissements pour quelqu'un comme moi qui est pasteur dans une église lorsque les proverbes disent, ouvre ta bouche pour ceux qui sont traînés vers la mort. Ceux qui vont perdre la vie, sauve-les. Si tu dis, oh, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Ouvre ta bouche pour le malheureux et pour le désespéré. C'est l'appel de l'Église. Et pour nous, et pour moi personnellement, si je peux me permettre, c'est quelque chose que Dieu et la vie s'est chargé de rendre très, très clair dans les premiers balbutiements, les premiers pas du ministère. Lorsque j'ai une des premières expériences et une des premières tâches pastorales après avoir été faire nos études et avoir été au séminaire et faire nos études, on a sorti et Pasteur Marc est ici sur le stade avec nous ce matin. On parle de plus de 20 ans. On était dans nos premiers stages pastoraux et probablement la première tâche, une des premières tâches pastorales qu'on m'a confiée, c'est qu'il y a quelqu'un de l'église qui avait appelé la petite église où nous étions pour dire que quelqu'un de sa famille s'était enlevé la vie. Et il avait besoin d'aide, il avait besoin d'aller faire ce qui avait à être fait pour essayer de voir si on pouvait réconforter ou quoi que ce soit. Et le pasteur nous avait dit, allez-y, et puis faites ce qu'il y a à faire, aidez dans quoi que ce soit qu'il y a à faire. Et c'était un monsieur qui était dans la quarantaine et qui avait vécu un divorce particulièrement difficile. Et il y avait eu une décision qui avait été prise de garde des enfants, il perdait la garde de ses enfants. Et la maman avait décidé qu'elle déménageait dans l'Ouest canadien à l'autre bout du pays. Alors, il était physiquement, avec cette réalisation, et émotivement, cette réalisation de plus voir ses enfants et tout le reste, c'était un monsieur qui avait des problèmes d'alcool sérieux. Et ce qu'il avait fait, c'était très poignant, très pathétique. C'est qu'il a mis tous ses papiers de divorce, il a mis ses albums de photos, ses papiers de divorce par-dessus. Et il y avait une bouteille qui était là, et je pense qu'il y avait des médicaments qui avaient été pris aussi. Et alors que c'était les derniers jours où il avait la garde d'un de ses enfants, qui était un petit garçon, qui était dormait dans une autre pièce, était là dans sa chambre, a pris un dos, se l'est mis sur la tête, s'est fait sauter la cervelle. Nous, on est arrivés et les policiers étaient partis peu de temps après parce que son fils a entendu la détonation et s'est assis là devant le cadavre de son père. Puis c'est des voisins qui l'ont trouvé à 8 heures le matin dans un état pratiquement catatonique, il n'avait pas bougé, puis il fixait son père, le cadavre de son père qui était là. Et nous, on est rentrés, Pasteur Marc et moi, et il y avait des choses peut-être pastorales qui devaient être faites auprès de réconforter certains membres de la famille, mais il y avait aussi une job à faire. C'était une famille, il n'y avait personne qui pouvait le faire, et c'était nous qui étions là. Et ce qu'on a fait, c'est assez sobre comme scène. Ce qu'on a fait, Pasteur Marc et moi, c'est qu'on a eu la charge d'aller acheter les galons de peinture et de nettoyer. Alors, Pasteur Marc et moi, et sans être trop graphique, on a gratté les morceaux du monsieur de partout sur le mur. On a roulé, et je me souviens qu'il y avait un tapis, il y avait un sous-tapis, puis il y avait la tache de sang, la mare de sang avait traversé le tapis, le sous-tapis. Puis lorsqu'on a tiré tout ça, le plancher, le bois était attaché avec une marque qu'on n'était pas capable de faire partir. Et moi, j'étais là avec Pasteur Marc, et je sais que lui l'a raconté aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, nous a marqué profondément, parce que pour nous, à ce moment-là, il y avait un rappel et il y avait une annonce divine extrêmement importante. Le ministère, c'est pas de faire des sermons en avant. Le ministère, c'est pas de se réunir entre nous, les chrétiens, pour faire des exercices religieux. Dans cette pièce-là, qui sentait la mort, il y avait une annonce que le ministère, ça va être d'ouvrir la bouche à tous les jours pour le prochain 20 ans jusqu'à aujourd'hui et offrir l'espoir à des vraies personnes qui vivent des vraies épreuves, qui ont des vrais désespoirs, mais à qui nous offrons un vrai Dieu et un vrai message d'espoir et un vrai message de consolation. C'est ça l'Église. Et c'est ça le ministère. La Bible donne plusieurs causes pour le suicide. La Bible a un enseignement, je ne fais qu'un survol. J'ai déjà donné une série de 6 messages sur la Bible et le suicide il y a quelques années. J'ai fait des conférences dans des écoles, écoles secondaires pendant plusieurs années lorsque j'étais pasteur jeunesse sur le sujet du suicide. Et la Bible est un livre, un manuel de vie extraordinaire. Et la Bible donne des causes au suicide qui sont très pertinentes aujourd'hui. Que différentes raisons pour lesquelles les gens arrivent à ce désespoir et s'enlèvent la vie. La Bible dit que la honte, le regret ou le désespoir, nous donne un exemple d'un homme qui s'appelle Saül, qui a connu une faillite, un échec, et sur le champ de bataille où il avait tout perdu par sa propre faute. Et la Bible nous dit qu'il a couru sur son épée pour s'enlever la vie lui-même. Il y a des centaines d'années plus tard aujourd'hui, des gens que ce soit honte de gambling, divorce, toutes sortes de choses qu'ils ont traversées font que ce que mes mains ont produit m'amène à un échec tel que je ne suis pas capable de le tolérer. La Bible nous dit que le sentiment de rejet ou d'inutilité est une cause de suicide. Il y a un personnage qui s'appelle Achille Hoptel, que alors que ses conseils sont rejetés et que son aide et les références bibliques sont sur l'écran, et bien sûr que toutes les notes sont disponibles à la fin de chaque message et également le CD de la présentation de ce matin, que Achille Hoptel s'est trouvé dans 2 Samuel, était menacé de perdre sa place. Ses conseils sont rejetés. Et il quitte le champ de bataille, retourne à sa ville, met ses affaires en ordre et il se pend dans sa maison. Il y a une montée alarmante de suicide chez des personnes plus âgées, des personnes qui se sentent ainsi, des personnes qui se sentent qu'ils n'ont plus rien à contribuer, que personne ne leur demande, que personne ne le sollicite leur aide. Nous avons des gens de l'Église qui visitent à chaque mois, semaine et mois, des maisons de personnes âgées et qui rencontrent des gens et c'est courant de se faire dire « Vous êtes la seule visite que cette personne-là a eue depuis 2 ans ». Courant de lorsqu'il y a 2 étés, il y a plusieurs années, le monde entier était secoué lorsque 3000 personnes sont décédées dans des tours à New York et c'était d'une grave importance. C'était extrêmement grave et des répercussions géopolitiques immenses. Mais en 2004, plus de 10 000, presque 11 000 personnes âgées qui sont mortes dans les canicules en France. Et c'est à peine si ça a fait un blip dans l'actualité ici et même en Europe. Et 10 000 personnes âgées qui meurent de chaleur, qui meurent d'étouffement, qui meurent d'asphyxie, qui meurent de toutes sortes de choses, de crises cardiaques à cause de la canicule. Et une des choses qui m'a bouleversé pendant des semaines, c'est que plus de 4 000 des dépôts et plus que 4 000 des personnes qui sont décédées n'ont même pas été réclamées. Il n'y a personne qui est venu les chercher. Alors, la Bible dit que c'est une des causes du suicide, est un sentiment de rejet ou d'inutilité, de maladie mortelle ou d'échéance physique. Abimélec, lorsque blessé gravement, demande à un soldat de l'achever. Il est atteint, diminué physiquement, et il refuse de vivre avec sa douleur, son handicap et sa situation dégénérative. Nous avons toute l'actualité récente avec le cas de Marielle Houle et toute la dimension du suicide assisté. C'est un problème et une situation d'une grande complexité. Nous avons un cours qui est donné ici par une docteure en biochimie qui s'appelle bioéthique et toute la dimension de l'éthique chrétienne à la lumière de toutes ces situations si délicates. Prenez garde, je veux simplement dire à chaque chrétien qui est ici, prenez garde d'énoncer des clichés ou de parler trop vite ou de parler avec grand jugement sur des situations qui touchent des milliers de personnes ainsi. Abimélec, lorsque blessé gravement et considérant sa vie diminuée et qu'est-ce qui était pour arriver et la fin de ses jours, a voulu se suicider. Zimri mourut. On parle de dépendance et de captivité. La Bible dit que la dépendance et les captivités vont amener les gens à s'enlever la vie. Zimri mourut à cause du mal qu'il avait fait et des voies dans lesquelles il avait marché. Une réalisation soudaine de son état et du mal qu'il avait causé autour de lui le conduit au suicide. Il meurt brûlé vif dans un incendie allumé par sa propre main dans 1 Roi 16. Des gens qui sont aux prises avec la toxicomanie, avec l'alcool, avec différentes dépendances, des sentiers dans lesquels ils sont depuis tellement longtemps, n'y voient aucune issue. La Bible nous dit que la dépression, l'épuisement, le désespoir psychologique est une cause de suicide. Il y a un personnage qui s'appelle Élie, qui est un achiever, qui est un gagnant, un battant, un leader exceptionnel. Dans les chapitres précédents, l'événement que je vous raconte ici, dans les premiers rois, on le voit conquérant. En termes modernes, c'est un capitaine d'industrie, c'est un étudiant brillant, c'est quelqu'un qui fait de grandes choses. Mais à long terme, il est épuisé, déstabilisé par la pression accumulée. Il perd toute perspective et il demande la mort, incapable de concevoir une issue favorable à sa situation. Son entourage le considère comme fort, un fort. Mais il est extrêmement vulnérable, émotivement et psychologiquement. Il demande la mort et toutes sortes de visages à la dépression. Il y a des gens qui sont en dépression, qui ont l'air extérieurement avec un visage et un faciès et des expressions et une dynamique et un horaire de gens extrêmement occupés qui ont l'air d'être des décideurs et des fonceurs alors qu'ils ont une extrême fragilité à l'intérieur. Sur Cyberpresse, cette semaine, il y avait cet article « Tout pour être heureuse ». C'est l'histoire de Marie-Claude. Elle avait en apparence tout pour être heureuse. Elle avait terminé ses études universitaires en psychoéducation. Un emploi l'attendait. Elle vit dans une famille unie. Elle avait beaucoup voyagé. Elle comptait sur une foule d'amis. Mais le 31 juillet 2001, son père l'a trouvé pendu dans le sous-sol. Elle avait seulement 22 ans. 4 ans et demi plus tard, Claude Saint-Yves décrit comme un cauchemar cette vision de sa fille, qui a abandonné, qui s'est rendue au bout de son découragement. Ça ne s'oublie pas. Ça ne s'accepte pas. C'est comme si tu t'habituais à vivre avec un handicap, exprime ce père endeuillé qui croyait lui aussi que le suicide n'arrivait que dans d'autres familles. Le docteur Alain Lesage, psychologue spécialisé en suicide, dit ceci, le taux pourrait être presque réduit de moitié si les différents intervenants des services sociaux et des services de santé étaient en mesure de récupérer les cas à risque. Et l'un des principaux symptômes est la dépression. Les autopsies psychologiques des suicidés montrent que 50% d'entre eux souffrent de dépression, que les 2/3 avaient eu des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue, révèle le psychiatre. Soigner la dépression et intervenir efficacement auprès des gens aux prises avec les 2 symptômes permettrait donc d'abaisser le taux de suicide. C'est pourquoi ici, à chaque semaine, il y a un département où des centaines de personnes s'impliquent, qui est sous la direction d'un pasteur qui est psychothérapeute et pasteur, qui est en ce moment en train d'apporter la parole à Québec, le pasteur Denis Morissette. Nous avons tout un département qui s'appelle les soins pastoraux. Nous croyons que l'Église ne peut pas être quelque chose qui se fait pendant 1h30 le dimanche matin. Que l'Église, c'est la représentation de Jésus qui a quitté le ciel et qui est venu vivre parmi les gens. Et les soins pastoraux, donc, à chaque semaine, et à tous les jours, et à tous les jours de la semaine, il y a des dizaines de rencontres, il y a des gens qui sont formés, des travailleurs sociaux de l'Église qui donnent leur temps bénévolement pour rencontrer les jeunes, rencontrer leurs parents, rencontrer des gens qui sont aux prises avec la dépression. Il y a des groupes de soutien, il y a des petits groupes de 12 étapes où des centaines de personnes participent. Un de ces petits groupes s'appelle le Vase Restauré, où des gens qui sont aux prises avec la dépression peuvent parler, peuvent être écoutés. Quelqu'un peut les aider, quelqu'un peut leur donner des outils. Une des choses les plus belles que je vois et qui me m'insuffle des énergies à chaque fois, c'est lorsque je reçois la vidéo, je le regardais ce matin, de la soirée des gradués. Ça a eu lieu, la dernière a eu lieu au mois de décembre. Il y avait 150 personnes dans une salle au Holiday Inn. Tous les gradués du Vase Restauré, ainsi que les membres de leur famille qui étaient là, qui ont traversé les 12 étapes. J'aimerais ce matin qu'on s'arrête une seconde pour saluer et dire merci à ces centaines de bénévoles dirigés par cette équipe pastorale qui tendent des mains vers des gens qui souffrent. Je peux vous dire, les affirmer avec moi ce matin. Les causes du suicide selon la Bible. La Bible dit qu'une autre cause du suicide, c'est le syndrome du bateau qui coule par ma faute. Jonas demande au marin de le mettre fin à sa vie en le jetant à la mer parce qu'il est convaincu d'être la cause d'une tragédie. C'est le monsieur qui a tout perdu avec son habitude de jeu. La maison y est passée, les autos, puis là, il se retrouve à 6h30 le matin après la longue nuit où il a tout perdu. Puis là, il faut qu'il fasse face à sa famille, à ses enfants. Il croit qu'il est la cause de la douleur. C'est des gens qui vivent une faillite. C'est des parents dont les enfants tournent mal et qui laissent une culpabilité, une condamnation les ronger. C'est des jeunes qui, d'une manière complètement fausse, se convainquent que c'est leur faute si leurs parents se divorcent. Et qui entrent dans une zone sombre où c'est leur faute à eux. La Bible dit ça, c'est une cause qui pousse des gens à faire ce qu'ils ne devraient jamais considérer. Que le drame, la tragédie, la Bible dit que le drame, la tragédie soudaine, grave et totalement inattendue. J'allais avec ma vie, tout à coup quelque chose de grand, de si saisissant arrive. Et l'exemple biblique, c'est qu'il y a un garde de prison dans les Actes des Apôtres qui menace de s'enlever la vie. Avec sa propre épée, parce qu'un tremblement de terre a permis aux prisonniers de s'évader. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais imaginer. Lui, il est responsable d'un secteur et à l'époque romaine, si tu perdais tes prisonniers, on va t'enlever la vie à toi. Tu payais avec ta vie du prix des la protection et la charge des prisonniers que tu avais. Il y a un tremblement de terre qui prend place et dans le secouement, les bâtiments sont secoués. Il y a des prisonniers qui commencent à se sauver. Et cet homme-là, dans un moment de panique, et le texte nous dira qu'il avait une famille et des enfants. Mais cette capacité qu'ont les tragédies soudaines de nous faire perdre toute perspective et je perds pied et là, je suis pas capable d'imaginer qu'il y a une solution. Diagnostic de cancer, mort soudaine d'un être cher, crash économique personnel, une faillite, un étudiant qui allait toujours si bien et tout à coup, là, je suis pas accepté à l'université, je suis pas accepté où je voulais aller. Il est arrivé quelque chose qui me secoue et tout tourbillonne. Les causes du suicide, selon la Bible, la culpabilité extrême ou l'absolu désespoir de celui qui est convaincu que sa situation est irréversible. Judas, après avoir trahi le Christ, se pend pour faire cesser sa souffrance intérieure qui lui est devenue intolérable. Et à toutes ces causes, la Bible enseigne beaucoup de choses. Je fais seulement un survol ce matin. Mais Dieu répond à toutes ces causes. Et Dieu répond à chaque personne qui vit ses pensées de suicide. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la vie? La Bible enseigne que Dieu a créé et aime la vie. Le voleur ne vient que pour, c'est Jésus qui parle, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Quel que soit ce qui t'a été volé, quel que soit ce qui t'a été dérobé, nous avons souvent, dans la province de Québec, une pensée d'un Dieu dans le ciel qui est sinistre et austère et qui cherche des façons de nous rendre la vie misérable. Tu n'as pas le droit de rien de ce qui est le fun, puis on va essayer de trouver une manière, on peut-tu rendre ça un petit peu plus misérable pour eux? J'aimerais déclarer que Jésus est arrivé et il a dit, moi, je suis face à une humanité qui s'est faite voler la joie, s'est faite voler l'espérance, s'est faite voler l'accomplissement, ont toutes sortes de liens sur leur vie, mais moi, je suis venu afin de te redonner une vie abondante, une vie d'épanouissement, une vie où tu ris de joie puis tu t'empares de ce que tu as besoin. Quelqu'un devrait dire amen. Dieu aime la vie. Dieu enseigne que la vie est un don exceptionnel dont nous jouissons et qui lui appartient ultimement. C'est Dieu, 1 Samuel 2:6. C'est l'Éternel qui donne et qui reprend la vie. Dieu dit non. Cette vie, c'est un don précieux que je t'ai donné. Tu ne peux pas la reprendre. C'est moi qui la donne. C'est moi qui l'enlèverai. Que la vie doit être préservée, honorée, protégée. Tu ne tueras pas. Tu ne verseras pas le sang. Une personne qui se suicide, c'est comme le meurtre, c'est la destruction de toute la potentialité de vie, du don de vie, du cadeau, de tous les plans que Dieu avait préparés pour elle. Prenez garde à vos vies, dit le Deutéronome. Veillez attentivement et protégez les jours de votre vie. La Bible enseigne que la vie de chaque être humain est égale en valeur, en beauté et en importance devant Dieu. Quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit l'endroit où il naît dans le monde, quel que soit le quartier où il naît autour de Montréal, quel que soit ce qu'il a pu faire ou commettre, ou ce que ses parents ou ce que son entourage a fait, la Bible dit que chaque être humain est également beau et précieux. La Bible parle de nous en termes qui nous rend mal à l'aise. C'est lorsque quelqu'un dit du bien, nous, quelqu'un nous vante, puis on se sent mal à l'aise, puis on veut qu'il passe à un autre sujet. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, peut-être que vous aimez ça au bout, mais il y en a entre nous qui se sent. La Bible dit dans le psaume 39, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, Seigneur. Lorsque j'étais fait en secret, mon corps n'était pas caché devant toi. Avant même que je n'existe, tous les jours de ma vie t'étais inscrit. » Le psalmiste dit, « Mon corps, qui je suis, du physique à l'émotif, ce qui compose mon être, était connu devant toi. » Tu savais quelle serait la couleur de ma peau, quelle serait toute ma personne, que je sois handicapé physiquement ou de d'autres façons, que je sois blanc, que je sois brun, que je sois noir, que je sois caramel ou que je sois vert, comme certains d'entre nous au mois de février au Québec. Tu me connaissais, tu savais tout de moi. Avant même que mes jours étaient inscrits devant toi, et je le reconnais bien. Je te célèbre, Seigneur, car je suis une créature merveilleuse. Ah, j'ai eu à peu près 18 « Amen » sur 3000 personnes. Alors, tournez-vous vers quelqu'un à côté de vous et dites-lui, « Je me présente, créature merveilleuse. » Je vais vous dire ça à quelqu'un. Il y a des maris qui ont une chance de gagner des points à la Saint-Valentin. Là. Allez-y pendant une seconde. Let's go, boys. Dimanche dernier ou l'autre avant, c'était le Super Bowl. Une des choses, Super Bowl, c'est un match de football que certaines personnes prennent à cœur. Nous autres, on a une très belle unité dans l'équipe pastorale. Mais là, il y a eu presque un conflit avant la réunion ce matin. Moi, faut être transparent. Parce qu'on est obligé d'interdire à Pastor Mark d'entrer avec sa casquette des Steelers sur la tête. On a dit, tu peux pas faire ça. C'est pas permis. Je vais vous dire que le Super Bowl, c'est un match de football, mais c'est aussi des commerciaux. Ça coûtait 2,5 millions aux 30 secondes pour passer un commercial. On a décidé de ne pas annoncer l'Église Nouvelle Vie finalement cette année. Cette semaine, après ça, tous les experts disent c'était quel le meilleur commercial. Il y avait des très, très farfelus, drôles, toutes les sortes de commerciaux de bière, de toutes sortes de choses. Mais c'est intéressant sur Internet qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sites experts qui citaient le commercial de Dove, un commercial de savon, sur l'estime de soi comme le meilleur commercial du Super Bowl. Et Dove met toute sa campagne publicitaire au complet sur cette dynamique de l'estime de soi. Puis on fait une fondation pour l'estime de soi. Je veux dire, on va regarder 45 secondes du commercial pendant une seconde. Vous allez voir un petit peu l'attitude du commercial.
Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when. I last saw you laughing. This world makes you crazy, and you've taken all you can bear. You call me up because you know I'll be there, and I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. You're beautiful like a rainbow.
Comprenez? C'est super, vous pouvez applaudir. Il y a toutes sortes d'autres commerciaux qu'on est moins emballés. Vous pouvez applaudir celui-là, c'est super. Je salue les efforts de cette multinationale et la fondation, etc., etc., mais je veux dire avec douceur, mais avec réalisme, tu as besoin de plus que d'une barre de savon pour guérir les traumatismes de ton âme, pour effacer ce que des fois des années ont été mis en toi. Besoin de plus. J'aimerais vous proposer que, puis là, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas contre l'utilisation de la barre de savon, ça a son utilité. Et je vous le recommande grandement, chacun d'entre vous. J'aimerais déclarer ce matin que lorsque ton âme est blessée et en miettes, tu as besoin de plus que d'une barre de savon. Tu as besoin d'un Dieu vivant. Tu as besoin d'un espoir véritable. Et est-ce que je peux dire ceci avec les ados présents et chacun de nos adolescents, de nos enfants, ont besoin de parents qui prononcent des paroles de vie, des paroles de « t'es capable » et « t'es beau » et « t'es belle » et « t'es capable » et « Dieu est avec toi » et « il n'y a pas de limite à ce que tu peux être et accomplir ». La Bible enseigne que chaque être humain est égal en importance devant lui. La Bible enseigne que nous devons toujours choisir la vie, la diapo 33. Que nous devons toujours choisir la vie. Pourquoi choisir de mourir? Rejetez loin de vous ce qui vous a rendu malade. Revêtez-vous d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. Et Dieu offre un message dans la dernière portion du message. Dieu offre un message. La réponse de Dieu au suicide. Elle est trouvée dans toute la Bible, mais dans un seul chapitre des Écritures, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains. Trois pensées toutes simples en terminant. Dieu répond, la réponse de Dieu au suicide. Dieu répond avec une délivrance. Il faut la recevoir. Dieu répond avec une délivrance. Il dit dans Romains 8, l'apôtre Paul dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui apprennent à marcher selon le message de Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, ou la mentalité, l'arrière-plan familial, social, religieux, les systèmes de pensée destructeurs, mais plutôt qui apprend à marcher selon l'esprit. » L'apôtre Paul prend ces mots. Car en effet, c'est l'esprit de vie qui est en Christ, qui m'a libéré de la mort. N'oubliez jamais ce que la délivrance que Paul a reçue. Il y a une base de condamnation qui cause un grand nombre de suicides. La personne qui vit, pas capable de vivre avec ce qui est arrivé, ce qu'ils ont fait, condamnation, un sentiment de culpabilité qui les ronge. Et à eux, Dieu offre une délivrance. Il offre un pardon. Il offre la capacité à chaque être humain de venir, d'être pardonné. Non, oui. Dieu dit oui à reconnaître les torts que tu as fait. Oui à réparer. Oui à accepter les conséquences. Oui à ne pas juste passer par-dessus. Le pardon de Dieu, c'est pas « t'as jamais rien fait » et puis « prends pas responsabilité pour ta vie ». Mais Dieu dit non à la condamnation qui écrase un être humain et qui l'avilie. L'homme qui nous dit « il n'y a maintenant aucune condamnation » est un homme lui-même qui avait été un meurtrier. L'apôtre Paul avait été meurtrier précédemment. Il nous ouvre son cœur puis il dit « c'est pas instantané, c'est pas facile ». Il dit « il n'y a aucune condamnation ». Mais ça, c'est la foi que j'ai en Dieu. Mais j'ai besoin pour ceux qui marchent non selon les desseins de la chair, non selon les mentalités, non selon tout ce qu'il a connu, mais qui marchent par la foi selon l'Esprit de Christ. Lorsque je vous parle de ce groupe que nous avons à l'église de Vase Restauré, il y a émergent de ce groupe toutes sortes de témoignages d'hommes et de femmes qui étaient au bord de la mort, qui considéraient s'enlever la vie simplement parce qu'ils étaient n'en pouvaient plus du mal qu'ils avaient fait, n'en pouvaient plus du poids de la culpabilité. Et d'entendre leur témoignage est tellement magnifique. Alors qu'ils traversent ces 12 étapes, la Bible en main avec des gens autour d'eux. Je regardais la vidéo ce matin et il y a un duo qui est particulièrement savoureux. Il y a un gars qui s'appelle Michel qui est là et qui a été un vendeur de dope, qui a été un trafiquant, qui était dans la coke, qui était en prison. Et c'est alors qu'il était derrière les barreaux que quelqu'un lui a donné une cassette d'un enseignement du pasteur Denis Morissette, qui est le pasteur des soins pastoraux ici à l'église Bellevue. Et avec son langage à lui, Michel est ici ce matin, avec son langage à lui, il dit, mon chum m'a passé la cassette puis il m'a dit, écoute ça, écoute du Morissette. Alors qu'il s'est mis à simplement laisser ses... Une étape menant à une autre, sur un processus. C'est venu ça à l'église, les gens trouvaient un emploi avec des gens à l'église, un morceau après l'autre. Il y a une fille qui ne pouvait plus voir auparavant, sa petite fille commençait à pouvoir la voir, s'est trouvé un emploi, s'est libéré lui-même de tout ce qui pouvait le tenir étape par étape. C'est un processus et c'est lié d'amitié. Et sur la vidéo, je l'avais préparé, mais on n'a pas le temps de le montrer ce matin. Sur la vidéo, son copain dans le groupe, c'est un policier enquêteur en narcotiques et en crime de la GRC. Combien croient que juste à l'église, ces deux-là peuvent être chums? Lui aussi qui était dans le groupe pour une situation de dépression. Et les deux racontent comment ils sortaient, faisaient du bénévolat à Action Nouvelle Vie, puis ils sortaient ensemble et puis ils ont entendu, ils ont vu un policier passer, puis la sirène de police. Et puis Michel dit à son compagnon, ancien policier à la retraite, il dit, « Ah, c'est le fun. » Il dit, « Qu'est-ce qui est le fun? » Il dit, « C'est assez le fun. » Il dit, « C'est la première fois que j'entends une sirène de police, puis je ne suis pas nerveux. Je le sais que ce n'est pas moi. » J'aimerais déclarer qu'il n'y a maintenant aucune condamnation et qu'il est possible pour un être humain, même malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire hier, de trouver un pardon, une grâce et de marcher à chaque jour en apprenant à refuser cette condamnation et en recevoir l'espoir et le pardon que Dieu a pour moi. La réponse de Dieu au suicide, il dit, je vous offre ma délivrance. Il faut la recevoir. Dieu répond avec une délivrance et Dieu répond avec un défi dans l'Épître aux Romains. Il dit, j'estime qu'il n'y a pas de comparaison possible. L'apôtre Paul dit, entre les souffrances passagères de l'immédiat et la joie à venir qui nous sera révélée et que nous découvrirons plus tard. C'est pourquoi nous gardons espoir et nous avons confiance pour ce que nous ne voyons pas encore. C'est pourquoi nous acceptons d'attendre et choisissons de persévérer. Une des clés que Dieu donne dans la Bible aux gens qui pensent au suicide, c'est qu'avec douceur et amour, et toute la force de son amour et de son espoir pour toi, il dit, refuse de te limiter à l'immédiat. Refuse de croire que l'immédiat représente tout ce que... Il dit, c'est parce que nous avons les yeux sur ce qui n'est pas arrivé encore, sur ce qui va arriver dans l'avenir, sur ce qui est préparé pour nous, que nous acceptons de traverser ce que nous traversons maintenant. Et nous avons cette conviction que les bonnes choses qui sont dans l'avenir n'ont pas de comparaison, sont immensément plus grandes que l'épreuve que je vis en ce moment. Je parle un instant aux ados et aux gens qui sont plus jeunes, qui sont ici. Dans l'adolescence, c'est quelque chose qui est physiologique, c'est quelque chose qui est émotif, alors qu'on vit toutes sortes de transformations. C'est normal qu'il y a des choses que, sur le coup, là, il y a des choses qui semblent, des choses très graves que des ados vivent, mais il y a aussi des choses qu'on vit en tant qu'ados qui ne sont pas si graves, mais qui nous le paraissent à nous comme la fin de l'univers. Moi, quand j'étais ado, j'avais un problème très grave, apocalyptique, de proportion majeure. J'avais un problème de feu sauvage. Plus j'étais nerveux, plus j'avais des feux sauvages. Alors, et là, on parle, il y a feux sauvages, il y en a des feux sauvages. Il y a des gens ici qui ont des feux sauvages, vous vous plaignez de vos feux sauvages, vous avez une petite affaire rouge sur la lèvre. Non, moi, je vous parle d'une pomme, je vous parle de quelque chose qui... Et à 13, 14, 15, 16 ans, lorsque tes cheveux comme ça frisaient ses épaules, et quand, savez-vous, un des moments que les feux sauvages apparaissaient tout le temps, juste avant la photo d'école. Ben, j'étais nerveux à propos de la photo, puis il y avait toutes sortes de raisons, puis j'étais sous stress. Alors, je le sentais venir. Puis si jamais vous avez vécu l'expérience d'un feu sauvage, c'est vraiment traumatique. C'est que tu le sens sortir 3-4 jours avant. Il n'y a rien encore, mais il s'en vient. Il t'avertit. Tu sors et tu ne vois rien, mais il est en train de te dire, tu vas voir, je m'en viens. Je vais arriver pour la photo. Et c'est fou, mais un feu sauvage, parce que c'est pas si grave, mais 13, 14, 15 ans, c'était vraiment la fin de l'univers. J'avais l'impression qu'il était énorme. J'avais l'impression qu'il pesait une tonne. J'avais l'impression que tout le monde à l'école ne parlait que de ça. J'avais vraiment le feeling que je marchais dans les couloirs, puis j'avais le feeling que des fois j'entendais presque feu sauvage dans le couloir C24. C24. Peine d'amour ado, feu sauvage. Il y a des choses qui, à court terme, semblent absolument hallucinantes. Je ne suis pas certain que l'apôtre Paul parlait de feu sauvage, mais l'apôtre Paul donne cette clé. Dieu dit, je te lance un défi. Il y a des choses qui sont infiniment plus graves que le feu sauvage. Quel que soit ce que vous traversez en ce moment, quel que soit ce que les ados qui sont ici traversent, de choses vraies, de choses graves, de choses traumatiques, quel que soit ce que tu vis en ce moment, Dieu dit, je te lance un défi de refuser de laisser l'immédiat être déterminé, devenir pour toi tout ce qui existe. Il y a une vie après ça. Il y a un lendemain à cela. Il y a une vie. Si tu peux seulement persévérer et marcher à travers, il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Une jeune fille, ça dure une minute, qui va, elle avait fait un témoignage de 30 minutes sur vidéo, on a juste la conclusion d'une minute, qui s'appelle Chantal, qui a grandi avec une maladie. Une jeune fille qui, toute son enfance, elle était malade. Elle ne pouvait pas jouer avec les autres. Pouvait pas. Elle était avec une maladie. Je ne peux pas vous expliquer tous les détails. Mais c'est quelque chose qui la rendait incapable de faire ce que tous les autres enfants faisaient. Elle a grandi avec ce poids-là. Puis alors qu'elle était enfant, en plus de sa maladie, alors qu'elle est si vulnérable, qu'elle se sent si à part de tout le monde, elle a été aussi abusée. Puis alors qu'elle était, et tout ça ensemble, elle pensait qu'elle pouvait passer à travers. Mais à l'âge de 17 ans, c'est devenu, là, pour elle, c'était comme si ça va être juste ça, ma vie. Rien d'autre, il n'est pas capable. Il y a des ténèbres qui font que tu peux pas capable de voir de l'autre côté. C'est très, très touchant parce qu'il y a des gens qui lui avaient parlé de Dieu, de l'Église, tout ça. Et Chantal a pris plein de pilules, puis est venue s'asseoir pendant une réunion comme ce matin, puis elle s'est assise dans la salle pour mourir, ici. Elle a pris toutes les pilules, puis elle s'est rendue, puis elle s'est assise. Puis les médecins ont dit qu'elle avait pris bien assez pour mourir. Mais alors qu'elle est assise là, elle s'est mise à paralyser et à commencer à glisser. Il y a des gens qui l'ont vue. Elle était capable de la... Elle est venue à l'hôpital, laver l'estomac, puis elle a eu une deuxième chance. Dans les jours et les semaines et les mois qui ont suivi, jour après jour, avec un courage hallucinant, avec l'aide de Dieu, puis avec les bras de Dieu, puis avec l'espoir, puis avec un entourage et la foi, on a vu cette jeune fille-là rebâtir sa vie. Que ce qui était l'immédiat n'était pas la fin. Elle avait 17 ans. C'était terrible ce qu'elle avait vécu. C'était horrible. Mais c'est pas la fin. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui est de l'autre côté de ça. Si tu peux seulement continuer et refuser une détermination dans ton âme de dire, je refuse de laisser l'immédiat. Je refuse de laisser ça déterminer. Ce que même nos fautes, nos erreurs, les torts que j'ai, les fautes que j'ai, les douleurs que j'ai, les souffrances que j'ai traversées, les tragédies que j'ai traversé, je peux décider de ne pas laisser ça me définir. C'est pas seulement ça, moi. Moi, je suis pas seulement ça. Et de l'autre côté de ça, il y a une vie que Dieu a préparée pour moi. Puis il y a des gens qui veulent m'aider à la traverser. Vous pouvez vous dire amen? Je vous parle du message de Dieu. Le message de Dieu pour ceux qui font face au suicide en terminant. Dieu répond avec une délivrance. Il faut la recevoir. Il répond avec un défi. Il faut refuser. Puis je termine. Dieu répond avec une déclaration d'amour. Il faut simplement reconnaître notre besoin de lui. Dans le même épître de Paul, il dit de même aussi, c'est lui qui vient au secours de nos faiblesses. Nous avons la conviction que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. car nous sommes appelés selon ses plans, car nous sommes persuadés que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul dit, dans mes souffrances, lorsque je souffre, lorsque je passe des épreuves, il y a une assurance que je dois acquérir, qu'à travers tout ça, toute chose concourt au bien, qu'à travers tout ça, Dieu veut marcher avec moi, puis qu'il n'y a rien qui peut me séparer de son amour. Il n'y a rien que je peux faire qui va me séparer du fait qu'il est amour, qu'il m'aime, qu'il m'accepte et qu'il a un plan pour ma vie. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans, dit dans l'Épître aux Romains, dans le même chapitre, il dit, il y a toute une société, il y a tout un monde à travers les siècles qui recherche ce message. Il dit dans Romains, ainsi le monde entier, la création, attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent le cœur de Dieu, qui connaissent le cœur de Dieu, qui se révèle dans des psaumes comme celui-ci, où Dieu est attentif, nous dit le psaume 102. Son cœur se tourne vers nous. Il se penche du haut des cieux pour écouter les soupirs du prisonnier et pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. Et moi, je suis d'accord avec l'apôtre Paul pendant que les musiciens s'approchent pour vous dire que partout autour de nous, il y a des gens, et dans ce lieu ce matin, qui recherchent ce que seulement Dieu peut leur donner. Le philosophe Blaise Pascal il a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme avec la forme de Dieu. Moi, je crois que les artistes, plusieurs des artistes sont les poètes modernes qui ont le doigt sur le pouls de la société. Lorsque Baume des Jardins dit et écrit, « Dieu, t'es où Dieu? C'est où que tu te caches quand j'en arrache? C'est où que tu te sers, c'est où que tu te terres quand c'est la guerre? Quand je suis perdu puis que j'en peux plus? Quand il n'y a plus de soleil aux alentours, quand il n'y a plus d'amour depuis 3 jours, Dieu, t'es où Dieu? » Quelques années, une des figures montantes de la musique québécoise, un poète extraordinaire, un auteur hallucinant, prolifique, s'appelait Dédé Fortin. Commençait à monter, sa carrière européenne s'ouvrait, il fait des concerts de Saint-Jean-Baptiste et autres où il y avait des milliers et milliers, puis il y avait le doigt de jeunes, puis il avait vraiment le doigt sur le pouls d'une génération. Dédé Fortin avait une capacité de faire des tunes extraordinairement joyeuses. En même temps, si tu écoutais une deuxième fois dans ces tunes extrêmement joyeuses, il y avait souvent des paroles d'une profondeur extrême, et tous ceux qui le connaissaient savaient que c'était un jeune homme qui avait un mal de vivre hallucinant. Toute sa jeunesse, il a rêvé d'être ce qu'il est devenu, et alors qu'il y était, il avait beaucoup de difficultés à trouver une journée de paix. Vers la fin de sa jeune existence, il n'en pouvait plus des douleurs qui étaient à l'intérieur de lui. C'est terré pendant des jours et des jours, puis finalement, quelques jours avant qu'il écrive un texte que je vais vous lire en terminant, il a appelé un de ses meilleurs amis, puis il a dit, écoute, tu me fais toujours un super plat de saumon, super, que j'aime, alors j'aimerais ça que tu m'invites à souper. Son ami, c'était, je pense, c'est son gérant, l'invité, il est allé passer la soirée, il a mangé 2 fois, 3 fois du saumon qu'il aimait tant. C'est en allé chez lui, on ne sait pas ce qui a passé dans les heures qui ont suivi, mais il a écrit ce texte. Comme le temps est pesant, en mon âme escogriffe. Un grand ciel menaçant, un éclair qui me crie. Ton cœur est malicieux, ton esprit dans ses griffes ne peut rien faire pour toi car tu es tout petit. Les nuages voyageurs font des dessins abstraits. Ils me parlent de bonheur que jamais je n'entends. Je pourrais faire comme eux et partir sans délai, léger comme une poussière et transporté par le vent. Et dans la solitude de ma danse aérienne, le courage revenu, je trouverai les mots. Je réciterai sans cesse des prières pour que viennent la douleur du silence d'un éternel repos, mais épuisé que je suis, je remets à plus tard le jour de mon départ pour une autre planète. Si seulement je pouvais étouffer mon cafard, une voix chaude me dirait « Tu brilles comme une comète. » Je suis comme une loupe que le soleil embrasse, ses rayons me transpercent et culminent en un point, allume le feu partout où se trouve ma carcasse. Et après mon passage, il ne reste plus rien. Et dans la solitude de ce nouveau désert, j'aurai tout à construire pour accueillir la paix, et tout mon temps aussi pour prévenir l'univers que la joie est revenue et qu'elle reste à jamais, mais condamné par le doute, immobile et craintif, je suis comme mon peuple indécis et rêveur. Je parle à qui veut de mon pays fictif, le cœur plein de vertige et rongé par la peur. Et après avoir écrit le texte, Dédé Fortin a pris un poignard, se l'est enfoncé dans le ventre puis s'est éventré. est mort au bout de son sein, ils l'ont trouvé les tripes à l'air étendues dans son appartement. Le cri d'une génération qui cherche quelqu'un de plus grand qu'eux, qui les aime, qui va les porter, qui peut les consoler, les soutenir, que je ne suis pas juste un accident puis j'ai passé sur la terre. Qui cherche, avec un cri qui était dans tous les siècles, des textes comme celui de Dédé Fortin, vous en trouvez dans la Bible. 3000 ans avant, David a dit, « Il n'y a aucun repos, je ne dors plus. Je suis troublé, écrasé, le psaume 16. Je pleure jour et nuit, il y a un feu en moi qui fait mal. La lumière est éteinte, mes forces m'ont abandonné. Les terreurs de la mort m'environnent, l'horreur et la peur sont mon pain quotidien. Ceux que j'aime m'ont délaissé, je suis devenu un étranger pour ceux qui étaient si proches. J'ai cherché quelqu'un pour m'aider et je n'en ai vu aucun. » Et sur les genoux du désespoir, vous trouvez le roi David, 3000 ans avant, à genoux avec les mêmes mots et les mêmes angoisses que Dédé Fortin. Il y a une différence entre les deux hommes. Dans les mots qui suivent, David découvre, se tourne et prend la décision qui peut changer une vie humaine, changer un cœur humain, changer la destinée d'un être humain. Le même psaume, les mots suivants, David dit, « Je vais reconnaître mon besoin de Dieu et prendre la décision qui change tout. » Il dit, « C'est assez. Pourquoi continues-tu à t'enfoncer, ô mon âme? Dieu me relèvera. Il m'a sorti de l'emprise de la mort ou de la tombe. La tombe avait une emprise sur moi, une étrange attirance, une étrange attraction vers la mort et le morbide. Mais je le déclare, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les gloires de Dieu, de mon roi, et je vivrai à la lumière des vivants. » Jonathan était à genoux à côté de Dédé Fortier. Pas physiquement, mais dans son expérience humaine. Toxicomanie, la drogue, le désespoir l'avait amené à une tentative de suicide une première fois qui a raté, puis après ça une deuxième. Ses parents étaient venus à la foi. Eux-mêmes, polytoxicomanes, avaient trouvé des sentiers de délivrance, des sentiers de libération, des sentiers de sobriété et d'espoir nouveau. Puis un soir, alors qu'ils sont assis en haut en train de souper, leur fils arrive avec une tendresse un petit peu inhabituelle, embrasse sa mère et descend sous le sol pendant qu'ils sont en train de souper. Il est à peine au début de la soirée. Et quelques minutes plus tard, papa et maman entendent un bruit sourd qui va résonner dans leurs oreilles pour longtemps. Ils entendent le bruit sourd. Alors ils courent vers le sous-sol, la porte est barrée, poussent la porte, ouvrent la porte du placard, du garde-robe et trouvent leur fils pendu. Son visage est bleu, noirci, les veines toutes crevées dans son visage, les yeux exorbités, il est trop tard. Papa prend son fils et essaie de le décrocher, puis pendant qu'il essaie de le décrocher, son épouse dira que la seule chose qui va sortir de sa bouche, c'est « Mon bébé! Mon bébé! » À l'hôpital, les médecins sont très pessimistes, trop longtemps, avec l'oxygène coupé du cerveau. Maman marche dans la vallée de l'ombre de la mort en priant, en disant, « Dieu, fais un miracle. Dieu, aide-moi. Ramène mon fils à la vie. » Toutes sortes de jeunes de l'Église qui ne connaissent même pas encore le garçon se mettent à prier, puis toutes sortes de gens prient. Et on est tous reconnaissants lorsqu'on apprend que le jeune homme Jonathan va survivre, puis que lorsqu'il se réveille, il est intact. C'est pas facile, c'est pas une affaire d'une journée, c'est pas une formule magique. La drogue et les tentations sont fortes, et de la coke à d'autres choses, au freebasing, c'est pas... Tout est autour, puis c'est des griffes fortes. Mais dans les mois qui suivent, il y a une décision qui se prend. Je ne mourrai pas, mais je vivrai à la lumière des vivants. Mon âme, je ne te laisserai pas t'enfoncer encore plus creux. Je vais reconnaître mon besoin de Dieu. À travers un groupe, à travers de l'aide, à travers sa famille, à travers la foi, et nous croyons, et on n'est pas gêné de le dire, nous croyons parce qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui aime et qui agit et qui entend la prière. Il y a une intervention divine qui rejoint la volonté humaine et qui nous rend capables de faire ce qu'on ne pourrait jamais faire autrement. Jonathan non seulement trouve la sobriété, Mais de jour en jour, de mois en mois, trouve une restauration dans son cœur, dans son âme. Il est des années après années sobre. Il rencontre une jeune femme. Il est marié. Il a un emploi. Il a des enfants. Et maintenant, une des choses qu'il fait, c'est qu'il va dans des centres pour jeunesse. Il va, venez, Jonathan, une seconde. Il va dans des centres jeunesse. Il va dans des prisons pour jeunes. Et il va, pas parce qu'il a une vie parfaite, pas parce qu'il a, mais parce qu'il a trouvé un espoir, puis est capable d'aller dire à un jeune qui est là, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour proclamer la vie que Dieu avait préparée pour toi. Allez, s'il y a un applaudissement au Centre Bell pour un but de Yann Boulis, je pense qu'on a le droit d'applaudir dans une église pour un Dieu qui est vivant. On a le droit de donner une ovation debout et dire, Dieu, t'es bon, t'es grand, t'existes, tu es vrai. De pencher la tête pendant un instant. C'est un peu plus long qu'à l'habitude ce matin, je m'en excuse. Je crois que c'est un message qui est important. Pendant que Mélanie va jouer doucement ce cantique magnifique qui dit « Me voici à tes pieds » qui a été composé par Luc. « Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir, Seigneur, je te donne tous mes rêves. » Je veux faire un appel particulier ce matin. Nous voulons prier pour vous. Avoir un moment de prière. Ce n'est pas en un instant. Mais après ce moment, on va être avec vous demain et après-demain. On va être avec toi cet après-midi, puis on va être avec toi demain. Puis si tu veux simplement entendre le message de Dieu qui te dit, j'ai une délivrance pour toi si tu es prêt simplement à recevoir mon pardon. J'ai un défi pour toi si tu es prêt à refuser d'accepter l'immédiat. L'immédiat ne définit pas tout ce que ta vie future va être. Si tu es prêt à juste reconnaître ton besoin, j'ai une déclaration d'amour à te faire, que rien qui peut te séparer de mon amour et de mes plans à travers tout ce que tu as pu traverser. Moi, je viens au secours de ceux qui souffrent. Alors, ce matin, alors que nous prions pour vous, pour avoir un moment avec vous, ce n'est pas une chose magique instantanée, mais nous, on va être avec toi demain ou pour les prochains mois. Cependant, la vie est remplie de décisions et de moments qui changent beaucoup de choses. Il y a des gens qui prennent des décisions de s'enlever la vie et en un moment, y réfléchir en un moment qui est souvent, dans les deux tiers des cas, qui est embué, qui est plein de brouillard à cause de la drogue, à cause de l'alcool, de la dépression, d'autres choses, prendre une décision qui est irrévocable, qui arrête tout. Ce matin, tu peux prendre une décision pour la vie. Tu peux dire dans les mots du psalmiste, c'est assez. Pourquoi laisserais-je mon âme s'enfoncer un peu plus? Je crierai à Dieu, je reconnaîtrai mon besoin de Dieu et je ne mourrai pas. Et je vous demande pardon pour certains moments d'émotion à travers cette présentation qui ne sont pas coutumiers. Et toute la semaine, nous avons reçu des emails de gens qui, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est moi-même, c'est mon ami. Ils sont aux prises avec ces pensées. Il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Si tu pouvais imaginer toi ce matin, ce que Dieu a pour toi, ce que la vie a pour toi, ce qui est possible pour toi, si tu refuses de laisser l'immédiat te définir et tu reconnais ton besoin de Dieu, on va être là avec toi. C'est pas une affaire d'un instant, mais ce matin, tu peux prendre une décision, par exemple, qui va avoir une incidence, qui peut changer le cours de ta vie. Parce que ce n'est pas seulement une décision de tes forces, de ta volonté. Ce n'est pas nous qui peuvent faire ce qui est impossible en toi. Nous, on peut te soutenir, on est là avec toi. Mais ce que nous croyons passionnément, c'est qu'à l'endroit de ta décision humaine, il y a une force divine qui vient. Une capacité que Dieu donne de pardon, d'effacer toutes les fautes, d'effacer toutes les erreurs, d'effacer tous les péchés, d'effacer tout ce qui est mal, de pardonner, de ne pas être condamné, d'avoir la grâce de traverser ce que tu vis là pour t'emparer de ce que Dieu a pour toi. Et à chaque étape, même lorsque tu vas faillir, rien ne te séparerait de son amour. Rien ne va faire en sorte qu'il ne t'aime pas.
ou ne t'aime plus. Il y a toujours une grâce nouvelle à chaque jour, une patience infinie nouvelle pour toi. Et une force et une puissance pour te libérer tout ce qui peut te tourmenter. Alors ce matin, je vais faire un appel particulier à tous ceux qui sont ici, que vous avez été affectés par le suicide. Peut-être que vous êtes ici et vous avez eu vous-même des pensées de suicide. Ou peut-être que vous êtes ici et il y a quelqu'un dans votre famille qui en a. Vous êtes ici mort d'inquiétude pour votre fils ou votre fille ou un ami ou quelqu'un auprès de vous. Ou vous êtes ici et vous êtes une victime du suicide parce que quelqu'un dans votre famille s'est enlevé la vie. Il y a une peine, il y a un deuil, il y a quelque chose sur vous. Ou vous êtes ici vous-même parce que vous combattez des pensées de dépression et de désespoir. Ou il y a quelqu'un près de vous qui le fait. J'aimerais avoir un moment de prière avec vous, un moment qui va changer des choses parce que le Dieu vivant peut toucher votre cœur et faire naître, allumer une flamme d'espoir en vous ce matin. Et de libération et de délivrance. Alors, pendant que nous allons chanter « Me voici à tes pieds », nous sommes en effet à ses pieds devant Dieu ce matin. C'est quelque chose qui est vrai, qui est réel. Pendant toute la réunion, il y a des gens qui sont dans une salle et qui prient. Ils ont en prière du début à la fin ce matin et qui prient pour que Dieu vienne toucher votre cœur et nous croyons que Dieu va le faire. Alors, si vous êtes ici et le suicide a eu un impact sur vous de quelque façon que ce soit, par pensée de vous-même ou de gens autour de vous, ou bien des gens dans votre famille où il y a quelqu'un près de vous qui souffre de cette façon-là, j'aimerais vous demander, vous avez vécu un deuil, j'aimerais vous demander de sortir de votre place et de vous avancer parce qu'on veut prier avec vous. Et Dieu est un Dieu personnel. Et on veut prendre une minute de prière personnelle. Et toute l'Église va prier avec vous dans les derniers moments de cette assemblée ce matin. Alors que nous chantons « Me voici à tes pieds », faites ce pas en avant. Dis-je, je prends cette décision. Je vais reconnaître mon besoin à Dieu. Je viens pour moi-même. Je viens pour un événement passé qui m'a blessé. Je viens pour quelqu'un qui est proche de moi. Je viens pour un fils, une fille. Venez me rejoindre ici à l'avant, face à moi. Et nous allons prier avec vous. Et toute l'assemblée ensemble, alors que nous sommes à ses pieds, est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut le prier? Me voici à tes pieds, Seigneur. Puis s'il y a quelqu'un près de vous qui aurait besoin de s'avancer, ne forcez personne, bien sûr, mais avec douceur et amour, dites-lui, si tu veux, j'y vais avec toi. Et nous allons prier et que le Dieu de consolation et le Dieu de grâce et le Dieu de paix puissent toucher votre cœur ce matin. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut le prier ensemble? Me voici à tes pieds. Me voici. Me voici à tes pieds. Pour te demander ce matin une touche de ta présence. Dieu a un message d'espoir pour toi. Dieu peut être ton consolateur.
Me voici à tes
pieds. Peut faire du 12 février 2006 un jour nouveau, un commencement nouveau.
Pour te demander.
Et tourmenté par une autre décision, mais ce matin tu vas prendre la bonne. Tu vas choisir la vie. Tu vas choisir de te battre. Tu vas choisir l'espoir. Et les forces que tu n'as pas, Dieu va te les donner. Et la capacité d'être, de faire cesser cette douleur, incapable par toi-même, Dieu peut te la donner. Nous allons nous tenir avec toi. Nous allons être debout avec toi. Nous allons t'écouter, prier avec toi, parler avec toi, marcher avec toi, te porter. Et Dieu va le faire aussi. Pendant qu'on chante une dernière fois, venez ce matin. Voici.
Voici à tes pieds.
Il y a quelqu'un d'autre, venez.
Pour te demander une touche de ta présence.
Voici à tes pieds, mon roi.
Me voici à tes pieds. Pour te demander une touche de ta présence.
Sois
mon désir de te servir. Je te donne tous mes rêves. Oh, mon désir de te servir.
Oh, je te donne.
Je te donne tous mes rêves.
J'aimerais que toute l'Assemblée vous joignez à moi. Nous allons prier pour ces hommes, ces femmes ce matin. On va prendre quelques minutes, même alors que l'Assemblée va être terminée. Vous allez rester quelques minutes ici à l'avant. On va être là avec vous. On va aller être là avec vous. Mais Dieu est ici pour vous. Il y en a qui sont ici pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leur père, pour leur mère, pour leurs fils, pour leurs filles. Il y en a d'autres qui sont ici pour eux-mêmes. J'aimerais demander à toute l'Assemblée de prier avec moi. Et nous te prions maintenant, Seigneur. Toi, le Dieu de consolation. Toi, le Dieu qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés,
pour leur donner un vêtement de paix, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, je te prie, toi, le grand consolateur qui a promis que tu serais avec eux. Maintenant, je te prie que tu fasses quelque chose qui est entièrement surnaturel, au-delà des capacités humaines. Révèle-toi à chaque homme ou femme qui s'est avancé. Nous prions pour nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères. Je te prie, Seigneur, que tu les rejoignes là où ils sont, que tu lèves le voile de désespoir de leurs yeux, que ta lumière inonde leur cœur. Et pour ceux qui se sont avancés par dizaines parce que le combat est en eux, nous levons nos voix et que tu leur donnes la force de dire « Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je vivrai à la lumière des vivants. Je vivrai avec l'aide de Dieu. Je ne permettrai pas à mon âme de s'enfoncer un peu plus. Je vivrai à la lumière des vivants. Je te prie que tu libères. Je te prie que tu consoles. Et je te prie qu'à cause du 12 février 2006, des dizaines de personnes trouvent un nouveau chemin de vie, un nouvel espoir, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle confiance. Nous croyons en toi, c'est pas à cause d'une église, c'est pas à cause d'une organisation, c'est à cause de toi, ô Dieu. Dieu vivant, viens apporter la consolation à ceux qui ont perdu un être cher et donne-leur la force de vivre. Et nous plaçons devant toi et nous te demandons, bien après la semaine de prévention du suicide, fais de nous des hommes et des femmes porteurs d'espoir et des hommes et des femmes qui parlent l'espoir à nos propres enfants et à nos jeunes et à tous ceux sur lesquels que tu diriges sur nos chemins. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles à leur douleur, à détecter ce qu'on ne pourrait pas voir autrement. Et fais de nous des hommes et des femmes qui ont reçu la vie et qui vont répandre la vie. Et nous te remercions ce matin pour ton message. Pour ton message qui est bien vivant pour nous aujourd'hui en 2006 et pour ta puissance qui est réelle. Et nous te remercions pour chaque personne qui a répondu à cet appel et ce que tu vas faire en eux dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un dernier amen ce matin et une dernière belle acclamation à Dieu pour son message d'espoir.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.